Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 17 mars 2023, cet épisode, le numéro 2220, s'intitule « Les sauces papillons, les fournisseurs et la technologie de conservation ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir par email le texte du podcast, le transcript, sur onethinginafrenchday.com. Recevoir le texte seul coûte 3 euros par mois et c'est déjà un excellent moyen d'améliorer votre compréhension du français. Les sauces papillons, les fournisseurs et la technologie de conservation. Mercredi, nous avons fait la connaissance des deux créateurs des sauces papillons, Alexandre Juvin et Mathis Pellerin. Leurs recettes à base de légumes respectent les saisons et il s'agit de sauces fraîches, pas de conserves. Comment arrive-t-il à ce résultat? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. La partie technique vaut vraiment la peine d'être comprise selon moi parce que je trouve qu'on se pose parfois assez peu de questions sur ce que nous mangeons et comment cela a été élaboré. Je profite de cette introduction pour remercier Simon du magasin Les Saisonniers à Levallois qui m'a encouragé à contacter les créateurs des sauces papillons.
Et aussi, alors est-ce que du point de vue technologique, parce qu'elles sont très goûteuses, comment vous arrivez à garder comme ça ce goût si frais, si bon, si délicieux qui répond?
Alors, un tout petit mot sur les fournisseurs. Donc, vous avez raison. Nous, on essaye de se fournir le plus localement possible. Un bon exemple, c'est la sauce aux champignons. Notre fournisseur de champignons de Paris est à Paris. Il a une cave dans laquelle il fait justement, il cultive ses champignons dans le 18e arrondissement. Donc, c'est génial et en bio. Nous, on prend beaucoup de plaisir à aller à la rencontre de nos fournisseurs et pour nous, c'est important. On essaye de passer toujours en direct avec les fournisseurs. Et donc, ces sorties qu'on fait en dehors de Paris pour aller rencontrer justement des maraîchers, je pense notamment à l'entreprise Langevine qui est du côté de Saumur et qui est un maraîcher qui nous produit nos tomates cœur de bœuf qui sont délicieuses et qui rentrent dans la sauce tomate que vous avez peut-être goûté. Ah, dommage. Ah bah ça, c'est magnifique. Voilà, pour nous, c'est très important et ça nous permet de comprendre qu'ils respectent, qu'ils soient sur la même longueur d'onde que nous vis-à-vis du produit.
On allait jusqu'en Italie pour goûter les parmesans et bien comprendre, comme c'est un fromage qu'on utilise quand même beaucoup, notamment dans le pesto, pour bien comprendre comment il est fait, quelle qualité de parmesan on voulait, et pour bien rencontrer les fournisseurs avec qui on travaille. Donc là, on est aussi allé rencontrer en direct nos producteurs de parmesan, quoi.
C'est super.
Donc ça, c'était sur la partie fournisseur. Après, vous avez raison. Donc on en a déjà un peu parlé, mais on a d'abord pensé nos recettes comme des cuisiniers. Et après, on s'est posé quand même des questions pour la conservation. Donc nos sauces actuellement, elles se gardent au frais, et ça c'est important, et elles se gardent 30 jours. Donc, quelle technologie? Donc voilà, 30 jours de durée de vie. Nous espérons 40, on est en train de faire des tests actuellement à ce sujet. Alors, du coup, c'était quand même un minimum d'avoir ces 30 jours de durée de vie, parce qu'il faut laisser un petit peu de temps à nos distributeurs pour les vendre, et c'est bien normal. Donc, pour y parvenir, on a fait plusieurs tests sur différentes techniques de conservation. Et là, on est obligé de séparer deux types de recettes. Les recettes qui ne sont pas du tout cuites, donc en l'occurrence le pesto où il n'y a aucun traitement thermique, et les recettes qu'on mijote. Donc voilà, mijoter, c'est cuire longtemps à feu doux pour qu'il y ait une petite évaporation, pour faire générer les sucs des oignons, etc. Pour le pesto, on a tout de suite compris et on était aidé parce que on travaillait justement avec les professeurs de l'école de Montpellier Supagro, ingénieur agro. On a tout de suite compris que dès qu'on montait en température, on perdait, et notamment pour le basilic, la couleur et les arômes. Donc en fait, on a très vite compris que si on faisait un traitement de conservation, ce serait un traitement dans lequel il n'y a pas de température. Et du coup, on a essayé deux technologies qui sont soit le sous-vide. Et en fait, le sous-vide, il est très pratiqué en sachet plastique. Mais nous, on ne voulait pas utiliser de plastique. C'était un de nos engagements, ou du moins le minimum possible. Et ce sous-vide peut être fait partiellement dans des bocaux avec des capsules, comme c'est le cas de nos emballages. Donc, on a une cloche sous-vide. Une fois que notre pesto est mixé et mis dans le pot, on dit empoté, on le passe juste dans cette cloche sous-vide. L'air qui est resté dans le bocal est aspiré, et donc ça nous permet d'atteindre ces 30 jours de DLC. Pour les sauces mijotées, on est parti sur une autre réflexion. Nos concurrents, ce qu'ils font, c'est qu'ils stérilisent. La stérilisation, qui a été une technique qui a été inventée en France par monsieur Appert, je pourrais pas vous dire la date, mais faudrait qu'on se renseigne.
Je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est l'appertisation a été inventée avant la pasteurisation, et je vais pas dire de bêtises, mais tout ça a plus d'un siècle, quoi.
Donc, la stérilisation, ça consiste à chauffer à plus de 110 degrés votre produit, et à détruire en fait tous les micro-organismes qui sont à l'intérieur. Et une fois que le produit est renfermé de manière hermétique dans un emballage, eh ben, il peut se conserver, j'ose dire, ad vitam aeternam. Et c'est pour ça que d'ailleurs, sur les conserves, il n'y a pas de date limite de consommation, mais une date d'utilisation optimale du produit. Parce qu'après, il y a des pertes de couleur, il y a d'autres choses. Mais en principe, le produit ne va pas être dangereux pour les personnes. Il y a d'autres techniques depuis qui sont arrivées, et notamment la pasteurisation, qui est très utilisée notamment pour le lait, et qui est en fait un traitement thermique, mais par contre à des températures qui sont beaucoup plus basses. Et l'air de rien, d'un point de vue détérioration de la qualité, parfois à 10 degrés, l'impact est vraiment très important. Donc au lieu d'être à 110 degrés, nous, on est allé au plus bas, on va dire, sur les barèmes de pasteurisation, qui sont un lien entre température, enfin c'est un couple température et temps. Et donc on est allé à une pasteurisation à 75 degrés. Souvent les pasteurisations, je suis désolé, c'est un petit peu technique, mais se font dans des grosses machines qu'on appelle des autoclaves. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux cuissons. Les industriels font deux cuissons. Ils préparent leur sauce, ils la mettent dans les bocaux, et après, ils la font réchauffer à température qui se sont fixées pendant un temps donné. Nous, on ne voulait pas qu'il y ait deux cuissons, et on ne voulait pas en fait augmenter la température par rapport au niveau qu'elle a pendant qu'on la mijote. Donc en fait, le système qu'on a trouvé, et qui n'est pas une innovation technologique, puisque en fait la technique est connue, et elle est souvent utilisée, notamment par des personnes qui font des confitures chez elles. Elle consiste tout simplement à donc bien chauffer, et on va dire là pour le coup stériliser son emballage, nos bocaux et nos capsules, préparer notre recette, notre sauce, la faire mijoter comme si on était à la maison, mais avec des instruments qui sont un tout petit peu plus grands, mais sinon c'est vraiment les mêmes étapes que celles que vous allez faire à la maison. Empoter, donc mettre votre sauce dans le bocal tant qu'elle est chaude. Donc nous, elle est justement à environ 75 degrés. Et en fait, on maintient cette température pendant 30 minutes. Donc on n'augmente pas la température, c'est juste un maintien. Et ça équivaut en fait à une pasteurisation. Et après, évidemment, là, on a fait valider ça par des essais avec un laboratoire partenaire, qui est la condition préalable de toute façon pour être commercialisé. Donc ce sont un peu les deux technologies qu'on utilise. Et il est vrai qu'on a été... donc on a participé à un concours d'innovation alimentaire qui est plutôt destiné à des étudiants, mais moi j'étais en toute fin de reprise d'études d'ingénieur agronome, donc je pouvais y participer. Et donc en fait, on a eu plusieurs récompenses. Donc ce concours s'appelle Ecotrophélia, et on a eu plusieurs récompenses. Le prix fruits et légumes, le premier prix, et le prix de l'entrepreneuriat. Et en fait, je crois que le jury a apprécié justement qu'on valorise des produits frais, qu'on essaye de les dénaturer le moins possible et qu'au final, on utilise des technologies qui ne sont plus utilisées parce que c'est compliqué, parce que ça demande après une logistique du frais, mais par contre, qui valorise la qualité.
Merci beaucoup, Mathis et Alexandre. À bientôt.
Merci, Laetitia. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous.
Merci, Laetitia. Merci à vous qui nous avez écoutés.
À bientôt, chers auditeurs.
Maintenant, nous savons presque tout sur les sauces papillons. Mais il nous manque l'essentiel. Quelles seront les prochaines recettes maintenant que le printemps arrive? Écoutez, pour le découvrir, il faudra venir à Paris. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir dès lundi prochain. En attendant, je vous souhaite de passer un très bon week-end. À bientôt, au revoir.